présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Contraire qui a créé cette émeute. Hier, les gens ont voulu, en manifestant, dénoncer les fascistes. Et s'il n'y avait pas eu de fascistes, il n'y aurait pas eu de manifestation. Alors, j'ai raison de dire que tu as du sang sur les mains. Et tu vas me faire plaisir de déguerpir. Un honnête homme ne reçoit pas chez lui un salopard.
Franck ne dit rien et se dirige vers la sortie. François le suit. Le père dit à sa femme,
tu as vu ce lâche comme il déguerpit.
Franck serre les poings. François a honte de son père. Une fois sorti de l'immeuble, François lui dit, faut pas faire attention à ce qu'il a dit. Franck soupire et dit, j'ai l'habitude. Ton père est celui qui parle à la radio? Oui. Franck lui dit, il a de la chance d'être ton père. Parce qu'autrement, il soupire. François lui dit, il est si peu mon père. François lui dit, je comprends. Bien, je vais te laisser. Il faut que j'aille voir mes chefs. Ils vont me demander des rapports pour cette nuit. François lui demande, on se reverra quand? François lui dit, je sais pas. Ce sera difficile. Et puis malgré ton père? François les épaules et lui dit, oui. Franck lui dit, et puis, je t'aime bien. Franck lui dit, je dois t'acheter ta chemise aussi. François lui dit, oh, pour ça t'es pas obligé, j'en trouverai bien une. Franck lui dit, tu tiens à t'en acheter, je tiens à t'en acheter une. Merci. Il sourit et lui demande, comme on est obligé de se revoir, il saura quand. Franck lui dit, j'habite dans ta rue, mais je crois qu'il vaut mieux, c'est qu'on ne se voit pas dans un endroit comme celui-là. Il vaut mieux qu'on aille dans un endroit où on ne se connaît pas. Tiens. On était la nuit dernière. Tu te souviens où c'est? Oui. Je fais un peu. Je vais un petit peu aménager la pièce. Et nous serons tranquilles. François lui demande. On se revoit quand? Je serai là-bas tous les soirs. Après mon travail à 19h. Je serai tous les jours. Comme ça? Tu pourras venir quand tu voudras. Ça va? Oui, merci. Franck lui caresse la tête et lui dit, allez, je te quitte. Et il s'éloigne. François retourne chez ses parents et il retrouve ses parents à la même place. Son père lui demande,
tu as mis du temps.
François lui dit, je l'ai remercié, il m'a vraiment sauvé, il m'a vraiment aidé, j'ai failli être tué, tu sais. Et plus d'une fois, la mère lui dit, eh bien, tu n'es pas mort alors. Le père dit,
tu risquais rien. Tu étais avec le fasciste.
Il se lève furieux et gifle François.
Pendant que ton père luttait contre les fascistes, lui se met du côté de l'ennemi de son père. Tu as voulu ma mort, salaud, et dire que c'est mon fils qui a failli me tuer. Et c'est lui qui dit qu'il a failli mourir. Voilà la nuit. Voilà la mort. Voir la mort de son père. Quelle horreur. Je ne sais plus ce qu'il dit. Sa femme dit, laisse pas. J'ai toujours dit qu'il ne nous aimait pas celui-là. C'est un méchant, un mouchard, un traître, un tueur. Il envoie notre peau et nous prend le pain de la bouche. François en a assez de ce délire. Mais que dire? Que faire? Il est bien trop petit pour faire quelque chose. Il se dirige vers la sortie. Sa mère lui demande, où vas-tu? Il lui dit, tu sors un peu. Son père dit, tu vas voir l'ennemi. Demande-lui sa chemise. François lui dit, il va m'en offrir une. J'y compte bien. François quitte l'appartement. Il en a assez que ces deux alcooliques.
Et il passe la journée dehors. Les rues et une partie du quartier ressemblent à un décor d'après une guerre. Les cadavres, ils ont été emmenés dans des cimetières, cimetière de la Guillotière par exemple. Les blessés ont été amenés à la clinique SDF Pontois, à Perrache, qui est juste en face du cinéma Le Comédia, qui est devenu un resto pour SDF Pontois, et la clinique était l'ancien hôpital militaire. Là, ils seront soignés comme l'on pourra. Certains iront rejoindre les incinérateurs. Il y a plein d'incinérateurs dans la ville de Lyon. Comme ça, lorsque l'on ramasse des cadavres, on les brûle. Et les autres, au bout d'une semaine, on les amène jusqu'à l'écart, jusqu'à la gare de Perrache, et ils prennent un train jusqu'à Paris, qui n'y crée qu'un, pour leur prendre leurs organes, et ce qui reste ira dans l'usine d'alimentation pour chiens, plus Pontois. Comme vous voyez, tout est précieux, et tout est prévu pour les blessés. Elle est décédée. C'est l'efficacité tremblant. Les immeubles qui ont pris feu ne seront pas reconstruits. Parce que de toute façon, il était prévu de les démolir. La Tremblant, à la place, reconstruira de belles résidences de luxe. On nettoie le plus gros des rues touchées et la vie doit reprendre petit à petit. rue du Sergent Blandan a été bien touchée. De nombreux immeubles ont brûlé. Mais chose bizarre, l'immeuble où est la radio n'a pas été touché. On dirait que ça a été fait exprès de la laisser intacte pour qu'on continue à appeler à l'émeute. Peut-être que ça arrange les autorités et la Franc-Blanc. Ça fait des immeubles en moins, des gens en moins à reloger, étant donné qu'il y a des morts. C'est peut-être pour ça que qu'il y a tout le temps, toujours, avant l'émeute et durant toute l'émeute, un quart de CRS stationné juste devant l'entrée de la radio, comme pour la protéger. Une radio Anar qui est protégée par les CRS, le monde est à l'envers. Ou c'est de l'inconscience. Mais Pierre Max a dit à son émission du vendredi à 12h15 que si la radio est restée intacte, c'est parce que c'était un miracle. Dieu la protégeait parce que lui fait de la radio. Là ! Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre explication à ça. Le dirigeant de la radio et Robert lui ont dit d'arrêter de dire des conneries fascistes. Pierre Max leur a dit « Moi, je dis ce que je veux. Je suis libre. J'en ai assez qu'on ne veut plus de moi. » François passe sa journée à marcher dans les rues. Et à voir les enfants jouer. Ils jouent avec de vrais revolvers. Et certains même s'amusent à tirer sur des bouteilles en verre. Vers 19h, il est allé à son rendez-vous. Il s'est bien rappelé où était l'immeuble. La porte n'est pas fermée. Il entre dans l'allée. Arrivé au premier, il va frapper à la porte.
Entre.
Franck est allongé sur le matelas. Lorsqu'il le voit arriver, il se lève et va à lui. François le trouve très beau. Franck lui demande « T'as passé une bonne journée ?» François lui dit « Je suis resté dehors toute la journée. » Franck lui caresse ses cheveux et lui dit « Je t'ai trouvé une chemise J'espère qu'elle te plaira. Il s'éloigne. Reviens vers le lit. Prends un sac en papier. Le lutin. Tiens. Merci. L'enfant l'ouvre. Et voit que c'est une chemise bleu clair avec des poches boutonnées sur le devant. Mais elle est neuve. J'espère bien. Moi, je donne que du neuf à mes amis. Mais il ne fallait pas. C'est la première fois que j'ai des vêtements neufs. Merci. Je peux la mettre? Oui, bien sûr, elle est à toi. Et François quitte ta veste. Et il met la chemise. Les vêtements que lui prêtait Florence, ce n'étaient que des vêtements prêtés. Là, pour une fois, c'est à lui. Il demande, « Elle me va ?» Franck se penche, le regarde et lui dit, « Oui, elle te va très bien. D'ailleurs, tout te va. Tu es si jolie, mon bébé. » François lui demande, pourquoi est-ce que tu m'appelles mon bébé? Franck lui prend les deux mains et lui dit, je ne sais pas. J'ai envie, c'est que tu sois mon bébé. Tu es tellement... Je ne sais pas. J'ai jamais vu une personne comme ça. Il le prend dans ses bras et lui dit, viens, allons nous allonger sur le lit. Et il le mène. L'allonge sur le lit. Il s'allonge à côté de lui. Tous deux regardent le plafond. Franck lui dit, j'aimerais toujours être comme ça, tranquille. Roseau lui dit, vous en êtes bien. On est très bien. Puis, François baille et dit, j'ai faim. Franck lui dit, tu as faim? C'est vrai, moi aussi. J'ai quelque chose à manger. Il se lève, va dans un coin de la pièce, prend un sac de voyage qui est à terre, l'ouvre, en sort du pain et de pommes. Il lui dit, j'ai trouvé que ça. Il le lui apporte. Il mange en silence. Après avoir mangé, François lui dit, je dois m'en aller, je travaille cette nuit. Je dois me couper du convoyage à la gare. François se lève. Franck lui demande, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, rentrer le plus tard possible chez moi. Franck lui dit, écoute, j'ai pensé à une chose. Si tu veux, au lieu de traîner dehors comme ça, tu peux rester ici, même lorsque je ne suis pas là. J'ai fait mettre une serrure pour qu'on soit plus tranquille. Et je te donne le double de la clé. Comme ça, tu peux rester ici. Ça te va? Oui, merci. François est heureux. Franck lui tend la clé. Tiens, merci. Allez, je dois te laisser. Ferme bien en partant. Et ne laisse entrer personne. Il embrasse l'enfant et le laisse.
François retourne s'allonger. Sur le matelas, qui a l'odeur de Franck, il se roule. Puis, au bout d'un moment, il décide de visiter l'appartement. C'est un F1, avec une petite cuisine rectangulaire, juste un évier et une salle d'eau. Un dos avec douche, lavabo. C'est triste, pas très pop. Les murs sont peints en jaune sale. Le petit couloir mène à la cuisine et à la salle d'eau. Ça sent la poussière, mais c'est chez eux. Il reste un moment dans l'appartement. S'assoit sur le rebord du lit. C'est dommage que Franck n'ait rien laissé de lui. Il aurait aimé ses pouvoirs rêver plus facilement s'il avait eu l'odeur de Franck ou quelque chose de lui. Mais c'est bien tout de même, il a un coin. Au bout d'un moment, il sort. Il l'appartement sans oublier de fermer la clé. Arrivé chez lui, il trouve sa mère en train de manger une cuisse d'oiseau. C'est du pigeon. Elle lui dit, c'est un pigeon. Il est tombé à terre, raide mort. Alors je l'ai prise. Tu as faim? Non. Où étais-tu? J'étais avec l'homme qui m'a donné cette chemise. Fais voir. Il s'approche. Elle le regarde et lui dit, je pourrais la revendre à très bon prix. Il lui dit furieux, sûrement pas. Elle lui fait, mais tu pourras en trouver une autre. Il y en a plein les poubelles à cause de l'émeute. Il lui dit, c'est dégueulasse. Elles ont appartenu à des blessés ou des morts. Sa mère ouvre ses épaules et lui dit, tu parles. C'est pas eux qui viendront te la reprendre. Alors, donne-moi cette chemise. Il lui dit, non, elle est à moi. Il me l'a donnée. Elle lui dit, j'en ai besoin. Je la revendrai. Sûrement pas. Tu es vraiment une tête de cochon. Elle est trop bien, cette chemise. Tu vas te faire prendre. On n'a jamais vu quelqu'un comme nous avec ça. C'est même pas usé. Où il l'a fauché, ça? Il lui dit, il ne l'a pas fauché. Il l'a acheté pour moi. Et pourquoi il aurait fait ça? On ne fait pas de cadeaux. Pour rien. Ton père a dit que tu ne devais plus le revoir. Il ne dit rien. Elle a trop parlé. Elle se sert à boire du vin bon marché Jean Magnard. Allez,
cueillir vert encore.
Elle se fiche complètement de son fils, mais elle aurait aimé savoir la chemise pour la vendre ou l'échanger pour du bon vin. Elle se dit que dès qu'il sera endormi, elle le lui prendra. Elle se sert encore un troisième verre. Le vin la rend plus calme. Ça lui fait oublier la chemise. Il se dit qu'il doit se méfier. Elle risque, c'est de lui la faucher quand il va dormir. D'avoir marché toute la journée, la fatigue. Il décide de se coucher et de dormir avec la chemise.
Eh bien, je vais me coucher. C'est ça.
Le lendemain, lorsqu'il se réveille, son père n'est toujours pas là. Sa mère reste allongée sur son grabat. Elle lui dit « J'ai les vertiges. Je reste au lit. Si tu veux aller me chercher du vin, je n'en ai plus. Il m'en faut pour me requinquer et me mettre en forme pour la journée. »
Il fait « Bien, j'y vais. »
Avant de quitter l'appartement, il prend un crognon de pain qui est resté sur la table. Il reste aussi une carcasse de pigeon noirâtre. Ça sent une drôle d'odeur. Elle est dans une assiette. Ça le dégoûte. Il se dit que c'est dégueulasse. Une fois dehors, il fait grand jour. Les gens commencent à sortir pour chercher de la nourriture. Le décor est toujours aussi délabré et le restera jusqu'à avenue Franblanc. À 50 mètres de chez lui se trouve une épicerie marchand de vin. C'est une vieille boutique en façade en bois peint vert bouteille défraîchi. Les vitres de la façade ne sont jamais nettoyées. Il y a dans la vitrine des bouteilles de vin, quelques boîtes de conserve, des sachets de porte, des poussiéreux et vieux. La vitrine n'a pas été refaite depuis des lustres. Bien entendu, au-dessus de la boutique, il y a écrit « Épicerie fine du coin » et une pub au moins des années 50 sur le vin Marnia. Et le petit déjeuner Balagna, il y a bon Balagna. François entre dans la boutique. C'est sombre, ça sent la poussière. Un mélange de fruits, café et vin bon marché. Il y a trois vieilles qui sont dans la boutique. Une femme, grosse, cheviale, blonde, en blouse grise, est là pour les servir. Elle demande « C'est autour de qui ?» Une vieille grande maigre, aux cheveux gris, un chignon, robe noire, s'avance et dit « C'est à moi !» « Qu'est-ce que vous voulez, Madame Bouchu ?»« Des petits pois, 250 grammes
et des œufs, bien faits, avec, pas comme la dernière fois, où ils étaient prêts à éclore. J'ai même cru voir des plumes. L'épicière la serre. Les deux autres dames voient François. Ce sont des vieilles, une grosse et une grande à cheveux blonds, robe à fleurs à dominance bleue. L'autre est brune, petite et a une robe verte. La blonde lui dit « Bonjour Bijou, comment vas-tu ?» Il lui fait « Bien, je vais très bien madame. » Toujours aussi jolie. La brune dit « Oui, on dirait bien qu'il c'est un ange. On n'oublierait pas que c'est le fils de ses parents. Il est tellement beau garçon. Tu es venu acheter quelque chose ?»« Du vin. » La blonde fait « Pauvre petit vin. Tu veux des bonbons ?»« Oui, j'en veux bien. » La dame dit à l'épicière « Vous donnerez un paquet de bonbons à ce petit, c'est moi qui paye. »« Bien, madame. » Et elle dit à François « Ta mère me doit pas mal d'argent. » Il lui dit « Elle payera bientôt. » La vieille paye ses courses et dit à François avant de s'en aller « Tu devrais aller, c'est au catéchisme, mon petit. Je te plains. » Mon pauvre, avoir des parents comme ça, que tu as une belle chemise. Et elle sort. La dame blonde lui donne les bonbons, des caramels, dans un sachet. Et où as-tu eu cette belle chemise ? François lui dit, on me l'a donnée, tu en as de la chance. L'épicière lui donne une bouteille de vin. Et lui dit, tu diras à ta mère de venir me voir. Bien, madame. Et il sort de la boutique. Chez ses parents, sa mère est toujours au lit. Il lui donne la bouteille. Elle se met sur son séant, l'ouvre et boit, amène la bouteille.
Ça va mieux. Il n'y a que ça qui réveille.
Puis François est sorti. Puis il déambule dans les rues. Déambule dans les rues en mangeant des bonbons, plutôt en les suçant. Son père ne rentre plus à la maison. Depuis les émeutes, il passe son temps à la radio à crier. Il crie sa haine contre les fascistes et aller au café décrire ce qu'il a fait durant les émeutes. Comme il n'a rien fait, puisqu'il était terré à la radio, bien heureux d'être protégé par un quart de CRS-SS, alors il brode des histoires qu'il aurait eues durant cette nuit mémorable. Il a tiré sur des fascistes, il a sauvé des vies. François
vers 19h, retourne à l'appartement.
Il attend un peu troublé devant la porte, ne pas se servir de la clé. Alors, il frappe à la porte. Pas de réponse. Il attend une seconde, frappe encore. Entre ! Il ouvre la porte. Elle la referme. Il n'y a personne dans la pièce. Dit, c'est moi, François. Là, il voit que la porte de la salle d'eau est ouverte. Il y va. Sur le dos, il voit Franck, le torse nu, face au lavabo, en train de se raser. Ça lui fait quelque chose de voir ce jeune homme comme ça, en train de faire sa toilette. Franck le voit dans la glace, se retourne, lui dit « Salut !» Il lui sourit. L'enfant aime qu'on lui sourie. Franck lui dit, je suis en train de me raser. Ce matin, je me suis levé tard. Assieds-toi. François va s'asseoir à côté de lui, sur le rebord de la douche. Franck lui demande, ça va? Oui. Franck lui dit, tu verras, toi aussi, plus tard, tu seras obligé de te raser. C'est chiant. Eh bien ici, hein? Je vis chez mes parents, mais là, c'est chez moi. Il a fini de se raser. Ce soir est dit. Et voilà. Se penche vers François, lui dit. Touche pour voir si ça pique. François touche le visage de Franck. C'est doux et chaud. Ça peut aller? Oui. Il se plaque contre la poitrine de Franck. Il se plaque très fortement. Même lorsqu'il était petit, il n'a jamais connu ça. Franck lui donne un baiser dans le haut de la tête et lui dit « Tu as faim ? Un peu ? Oui. » En réalité, il n'a pas tellement faim. Il a plutôt envie, c'est de rester comme ça. J'ai amené du fromage et des pommes. Après avoir mangé, ils se sont allongés sur le lit. Enlacé, Franck lui dit, j'aimerais toujours être dans un endroit calme comme celui-là, peut-être à la campagne. Tu aimes la campagne ? François lui dit, je ne sais pas. Moi un peu. Je fais ce travail pour gagner ma vie, tu comprends? J'aimerais faire autre chose. Peut-être même facteur. Je sais pas. Fais voir tes mains. François les lui montre. Franck lui dit, tu as de belles mains, pas de mains d'ouvrier, tu n'es pas fait pour le travail manuel. Je ne dénigre pas le travail manuel, mais certaines personnes ne sont pas faites pour ça. C'est étrange, tu ne ressembles pas du tout à tes parents. Tu as un enfant adopté? François lui dit, non. Tu ne ressembles à rien en eux. François est heureux de ne pas ressembler à ses parents. Il aimerait être orphelin. Ou avoir comme frère Franck. Comme les jours rallongent, certains soirs, ils sortent ensemble après leur repas. Franck, pour son travail, a une voiture, des fois une Jeep. Et il quitte la ville pour aller rouler sur les monts du Lyonnais, dans les monts du Lyonnais. Un soir, Franck a fait conduire François sur un chemin de terre. Ses pieds arrivent juste aux pédales. Ça l'a excité et en même temps, il a eu un peu peur. Ça fait bizarre de conduire, de tenir le volant et de faire attention de bien suivre le chemin. Mais c'est très fatigant d'être toujours en éveil. Heureusement que Franck l'aide à faire ce qu'il a à faire. Il le fait conduire plusieurs fois. Ils se sont étendus dans l'herbe et regardaient le ciel. Un soir, ils sont allés se baigner au grand large. Ils étaient seuls. Ils se sont déshabillés. François n'a pas osé regarder son ami et se sont jetés à l'eau. L'eau fraîche sur leur corps nu leur redonnait le frisson. François a eu l'impression qu'il allait s'évanouir. Puis son corps s'est habitué à la température de l'eau et ils ont nagé. Leurs deux corps étaient en harmonie, en communion avec la nature. Après,
se sont séchés.
Nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.